Pierre soit là cet après-midi. Il était là ce matin. J'ai pas l'impression qu'il soit parmi nous cet après-midi. Pierre Legrand, donc, qui est un médecin psychiatre maintenant à la retraite, mais pendant longtemps donc, à la clinique du Rouvray, à côté de Rouen, la clinique psychiatrique du Rouvray, et qui de fait co-dirige le travail de Philippe avec moi-même. Donc voilà, Philippe, je te cède la parole. Je présente pas ton sujet puisque c'est toi qui vas évidemment le
Oui,
faire. Donc,
je vais présenter le sujet. Donc, bonjour à tous. Alors, petite manip, voilà, j'espère ne pas être toujours là.
oui, tu es là.
Alors, très bien. Donc, j'ai proposé comme sujet, pourquoi parle-t-on d'image du corps en psychiatrie et en quoi cela concerne la philosophie? Bon, c'était vraiment un titre à la dépotée, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Bon, je l'ai reformulé de façon un petit peu plus savante, je dirais, l'image du corps, construction d'un concept entre psychologie et philosophie, à travers quelques auteurs, de Darwin à Gisela Pankhoff. Donc, je voudrais tout d'abord repréciser mon thème, l'image du corps en psychiatrie, de quoi est-il question brièvement? Ou dit autrement, dans quel secteur de la santé emploie-t-on le concept d'image du corps dans la réalité clinique d'aujourd'hui? Donc j'ai identifié trois secteurs. Tout d'abord en pédiatrie, vous savez en effet que le petit enfant apprend son corps, ses doigts, son nez, sa bouche, qu'il le dessine ou que les personnages qu'il dessine signifient l'image de son corps. Françoise Dolto a laissé son nom attaché à l'analyse des dessins d'enfants, dont le concept central est l'image inconsciente du corps. Ensuite, second secteur en psychiatrie, dans le cas de la démence par exemple, on observe des troubles de la propriété. Le malade veut s'amputer d'une main, non parce qu'il est insensible à la douleur, mais parce qu'il la considère comme étrangère à son corps. On peut citer également des troubles de la spatialité du schizophrène qui entend des voix dans son ventre, par exemple. Enfin, un troisième secteur en neurologie avec les troubles de la reconnaissance. Suite à un traumatisme crânien ou un AVC, le patient perd la reconnaissance d'une partie de son corps ou ne parvient pas à l'identifier chez autrui. Olivier Sacks raconte le cas d'un musicien qui ne reconnaissait pas les visages. Dans son fameux livre, il prenait sa femme pour un chapeau. Ces observations, associées entre elles, ne nous permettent plus d'ignorer que l'allant de soi, j'ai un corps, procède d'une construction dont je vais vous présenter l'élaboration conceptuelle avec pour fil conducteur ce que cette élaboration a dû emprunter aux traditions philosophiques. Donc, mon premier auteur, c'est Darwin, avec l'enfant au miroir. Le premier secteur de la santé que j'ai évoqué, la pédiatrie, renvoie à la thématique de l'enfant au miroir. Elle a été introduite par un petit texte de Charles Darwin en 1877, esquisse biographique d'un petit enfant. Il note que dès l'âge de 4 mois, l'enfant manifeste un intérêt pour son image dans le miroir. Darwin établit la certitude, grâce à quelques feintes, que l'enfant a bien compris que c'est son image qu'il contemple en reflet dans le miroir. Il ajoute que, d'après son expérience, si les grands singes comprennent le miroir, ils se désintéressent rapidement de leur image, à la différence d'un petit enfant. Curieuse enquête donc de Darwin. De présenter un miroir à ses petits-enfants et à des singes. On se demande évidemment ce qu'il cherche à démontrer. Et si nous voulons répondre à cette question sans a priori, il nous faut suivre Darwin dans le contexte de son époque. Darwin est à cet égard un homme du 19e siècle, siècle marqué par un important développement des sciences et des techniques, et notamment par la mise au point de la machine à vapeur par James Watt en 1869. James Watt, donc, avec sa machine à vapeur, la preuve éclatante, frappante pour l'imagination de l'autonomie du mouvement et ruine la métaphysique au sens de la recherche des principes premiers du premier moteur. À l'évidence, le mouvement de la machine à vapeur est autonome. Il n'y a donc pas de premier moteur dans le ciel. L'épistémologue Jean Cavaillé s'écrira « Pour la première fois peut-être, la science n'est plus considérée comme simple intermédiaire entre l'esprit humain et l'être en soi, dépendant autant de l'un que de l'autre et n'ayant pas de réalité propre, mais comme un objet sui generis, unique en son genre, original dans son essence, autonome dans son mouvement. » Darwin est cet esprit du 19e siècle qui voyage, observe, note, cherchant inlassablement à comprendre comment le monde tourne. Il est, on le sait, le père de la théorie de l'évolution des espèces. L'embryogenèse récapitule la phylogenèse. Qu'est-ce à dire? Si on observe les stades de la formation de l'embryon, nous y retrouvons les stades de l'évolution de l'espèce. En 9 mois, le fœtus parcourt le milliard d'années d'évolution de la vie sur notre planète, de l'état unicellulaire à celui d'enfant. De la même manière, Darwin a pensé que l'enfance récapitulait les quelques centaines de millions d'années d'évolution qui séparent l'homme du chimpanzé. Nous y voilà donc. Darwin essaie de rapprocher, de comparer les capacités du petit enfant de celles du singe dans le nouvel esprit scientifique, avec la méticulosité du botaniste. Il adhère totalement à la définition que donnait son collègue Théodule Ribot de la psychologie scientifique. Je cite « La psychologie sera purement expérimentale. Elle n'a pour objet que les phénomènes, leurs lois et leurs causes immédiates. On ne s'occupe ni de l'âme, ni de son essence, car cette question, étant en dehors de l'expérience et de la vérification, appartient à la métaphysique. » Donc, pas d'âme, pas d'essence, pas de métaphysique pour Darwin, qui veut être un scientifique. Le ciel de Darwin, c'est la Terre, l'observation, les comparaisons, les déductions. Mais revenons à son texte. De fait, Darwin se borne aux observables. Le principal objet de ses observations, écrit-il, a été l'expression. Il regroupe en effet les expressions de ces deux enfants selon les items suivants, les réactions, les perceptions, les émotions, les conduites, etc. Il y a manifestement chez Darwin une ébauche de phénoménologie descriptive avant la lettre. Il dit à propos de l'enfant au miroir qu'il manifeste un intérêt pour son image dans le miroir et il insiste sur le fait qu'après vérification, c'est bien son image que l'enfant voit dans le miroir. Il s'y intéresse. Plus loin, il observe une particularité. L'enfant fait des « ah !» exclamatifs lorsqu'il reconnaît une personne ou qu'il se voit dans une glace. Cette observation, tout à fait admirable, mais que se passe-t-il donc quand l'enfant fait « ah !» en voyant une personne ou son image dans le miroir? Eh bien, déception. Darwin nous dit n'avoir pas fait d'observation sur ce point. Il y a une réticence claire de Darwin aux inférences. Et cette réticence va donner à penser à ses successeurs. L'un de ses successeurs, Preyer, ayant observé la réserve méthodologique de Darwin, va ouvrir la voie de la psychologie du développement. Wilhelm Preyer va réaliser une compilation des observations de l'enfant miroir et publier ses résultats en 1882, dans l'un des premiers grands ouvrages de psychologie du développement, L'âme de l'enfant, observation sur le développement psychique des premières années. Preyer veut faire de la psychologie scientifique autant que Darwin, ce qui ne l'empêche pas de titrer son livre L'âme de l'enfant, première différence avec Darwin qui lui parlait de biographie. Par ailleurs, l'enfant au miroir apparaît chez Preyer comme dans un chapitre intitulé Du développement du sentiment du moi. La question posée par le test du miroir est décentrée de voir son image à celle de se voir. La question de la conscience de soi était peut-être latente chez Darwin, mais il ne l'a jamais dit en ces termes. La position de prière est plus audacieuse si elle n'est pas sans difficulté. Et de fait, l'âge où le petit enfant voit son image et l'âge où on peut dire sans ambiguïté qu'il se reconnaît ne coïncident pas. L'enfant voit son image dès qu'il peut fixer son regard, c'est-à-dire vers 3 ans, tandis que la conscience de soi est plus difficile à déterminer, mais on peut dire vraisemblablement à partir d'un an et demi. Alors, comment différencier cette expérience précoce de la reconnaissance de son image de l'événement qui survient au 17e mois que Prière intitule « Sentiment du moi ». Le psychologue ajoute que cette distinction est consciente. Autrement dit, il ne parvient que difficilement à éviter une tautologie, c'est-à-dire expliquer le sentiment du moi autrement que par la conscience de soi. Toutefois, Prière reste pragmatique. Il inventorie les acquisitions fonctionnelles de l'enfant qui seraient contemporaines du moment où manifestement il se distingue des autres, c'est-à-dire la proprioception, la kinesthésie, le langage, mais, écrit-il, en apprenant à parler, le sentiment du moi s'affirme et se développe, mais il ne se constitue pas. Le psychologue associe le sentiment de soi à une synergie de capacités fonctionnelles, mais il est dans l'embarras pour déterminer le moment où s'allumeraient les réacteurs de la conscience réflexive, parce que la nature précise de cet événement lui reste énigmatique. Le relais de Prière, donc Vallone, avec le corps propre, l'héritier et fondateur pour la France de la psychologie de l'enfant est Henri Vallone. Nous avons vu que Prière associe l'image dans le miroir à la genèse du sentiment du moi. Mais comment se fait cette association? Les recherches de Vallone porteront sur les synergies qui concourent à l'émergence du sentiment de mien. La fonction du corps propre est d'unifier les vécus de l'enfant. C'est donc dans cette perspective que Vallone aborde la thématique de l'enfant au miroir comme contre-épreuve, écrit-il, c'est-à-dire comme situation expérimentale dans laquelle on va tenter d'identifier ce que l'enfant est capable d'unifier au regard de ses possibilités fonctionnelles. Il écrit « Le problème paraît comporter deux temps très simples, percevoir l'image, la rapporter à soi. Les étapes sont en réalité très différentes et beaucoup plus complexes. Elles mettent en cause des mécanismes et des conditions que l'analyse de la conscience par elle-même ne permettrait pas de soupçonner. La problématique du mien, qui relevait d'une association chez Prière, devient une unification des vécus chez Vallone, c'est-à-dire une synthèse qui n'est déjà plus une association de capacités fonctionnelles. Il introduit les notions d'expérience et d'unification des vécus issues de la psychologie de la forme, due à Kohler, dont il connaît les travaux sur l'intelligence des singes, mais il rejette les méthodes introspectives au profit d'une conception psychobiologique de l'intelligence, au même titre que Piaget. C'est donc dans une perspective tout à fait darwinienne que Vallone retient deux sortes de conditions au développement de l'intelligence. Les unes psychosociales, les autres psychobiologiques. Il recherche par quel degré l'enfant parvient à réaliser une notion suffisamment cohérente et unifiée de son être physique. Il réunit donc une somme des monographies sur le développement du petit enfant, mais par ailleurs sa qualité de médecin psychiatre lui donne accès à l'information médicale concernant les troubles en lien avec la thématique du propre. Il fait des liens entre psychiatrie, neurologie, pédiatrie et rapproche la tendance du petit enfant à confondre ses états émotionnels avec ceux des autres d'un trouble psychiatrique, le transitivisme, qui est le nom donné par Karl Wernicke à la perte de la distinction entre ce qui est intérieur à l'individu et ce qui lui est extérieur. Ce terme désigne en psychiatrie les processus par lesquels s'altère ou disparaît la distinction entre le corps et l'espace ambiant, entre la pensée personnelle et celle d'autrui, entre le moi et le monde extérieur. ce mécanisme se rencontre dans le cours des psychoses dissociatives comme la schizophrénie. Vallin établit donc un rapprochement entre les vécus d'une période de la petite enfance qui va de 6 à 15 mois et les troubles de la propriété du schizophrène. C'est probablement la découverte la plus remarquable de Vallin. Elle explique aussi l'attention qu'il portait à la psychanalyse. Freud présentant la pulsion comme une réalité psychobiologique, Vallin a pu envisager de grandes synthèses entre la psychologie et la psychanalyse. Toutefois, Vallin avait aussi noté que la notion de réalité psychobiologique entraînait une ambiguïté conceptuelle, celle-là même qui entraîna le rejet du concept freudien de pulsion, résultant d'une continuité entre une sensation, le reflet dans le miroir, et un jugement, la rapporter à soi. Vallin écrit « Entre l'expérience immédiate et la représentation des choses doit nécessairement intervenir une dissociation qui détache les qualités et l'existence de l'objet des impressions et des actions où il est initialement impliqué en lui attribuant, entre autres caractères essentiels, ceux de l'extériorité. Il n'y a de représentation possible qu'à ce prix. Celle du corps propre, dans la mesure où elle existe, doit nécessairement répondre à cette condition. Elle peut se former qu'en s'extériorisant. Une image est une sensation, tandis que la notion d'extériorité est un jugement. La réflexion de Vallin s'achève sur une interrogation quant aux formes de l'expérience. La distinction de l'actif et du passif, du moi et d'autrui. Après avoir congédié toute philosophie du cogito, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas refonder certaines catégories sur une base fonctionnaliste. Sans renouer nommément avec la philosophie hegélienne, Vallin s'engage ensuite dans une réflexion mettant en jeu, dans l'image du miroir, la négativité de l'apparence qui permet de passer de l'appréhension sensible de l'image à un contenu symbolique. Il écrit « Pour qu'il réussisse à unifier son moi dans l'espace, il lui faut situer son moi extéroceptif de telle sorte que la perception en devienne essentiellement irréalisable pour lui-même. Double nécessité. Mettre des images qui n'ont que l'apparence de la réalité, affirmer la réalité d'images qui se dérobent à la perception. C'est le prélude de l'activité symbolique par laquelle l'esprit arrive à transmuer en univers les données de la sensibilité. Dans une langue un tant soit peu husserlienne, et je pense à la sixième recherche logique, on pourrait dire que Vallin en appelle à une science des formes, une esthétique donc, qui lui permettrait de comprendre comment une synergie d'impressions sensibles, l'image spéculaire, peut conduire à une intuition catégoriale, une extériorité. Nous passons au stade du miroir de Lacan. L'originalité de Lacan sera de placer le stade du miroir et plus précisément l'expérience de l'image spéculaire au centre de la théorie psychanalytique de l'appareil psychique. Son texte fondateur de 1949, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique, n'est pas un résumé et encore moins une historiographie du concept d'image spéculaire. C'est un manifeste, une déclaration d'existence de 7 pages rédigée en 33 articles qui définit les linéaments d'une refondation de l'épistémologie psychanalytique dont je vais abréger les ressources philosophiques. En effet, non seulement ce texte ne livre pas ses sources, mais sorti de son contexte, il conduit même à des contresens. Ainsi, Lacan écrit s'opposer à toute philosophie issue du cogito. Or, le projet de Lacan est précisément de réintroduire le cogito philosophique qui avait été chassé de la pensée psychanalytique au profit du moi. La référence au cogito cartésien est explicitement désignée par Lacan comme oubli, non seulement en psychanalyse, mais également dans l'épistémologie psychobiologique de Vallin. Voici le raisonnement probable de Lacan. Si le petit enfant n'a pas à 6 mois le sens d'une extériorité, donc d'un moi, lors de l'expérience de son image spéculaire. Il existe cependant en tant que sujet de cette expérience, même s'il n'en a pas une conscience éthique. Je cite Lacan, « Le premier jugement de certitude que Descartes fonde sur la conscience qu'a d'elle-même la pensée est un pur jugement d'existence, cogito ergo sum. Il ne fait pas de doute que ce recours à un sujet de la conscience comme principe de certitude de l'être constitue un retour de la pensée transcendantale en psychologie. Après ce premier geste qui consiste à rappeler l'inexpugnabilité du cogito, Lacan rappelle également, mais cette fois contre Descartes et dans une perspective phénoménologique, que la conscience est conscience de part en part et que le biologique est biologique de part en part. Il n'y a pas d'esprit animaux qui voyagent de l'un à l'autre. Cette observation est dévastatrice pour l'épistémologie psychobiologique de Vallone. Selon Lacan, il n'y a aucune réalité qui puisse être qualifiée de psychobiologique. Et il insistera sur ce constat que le sujet, en tant qu'il parle, existe dans le registre des symboles et se trouve irrémédiablement clivé de son état de nature. Enfin, troisième geste de Lacan, après s'être rapproché de la phénoménologie, il met en avant la détermination symbolique du sujet qui le conduit à orienter son épistémologie vers les sciences du langage et la philosophie analytique. Il y a à cela deux raisons. D'une part, le langage est la matière première du psychanalyste, ce à quoi il est confronté concrètement. Et d'autre part, il n'y a pas de sujet sans signifiant du sujet, les représentations de mots de Freud. Pour conclure, nous observons que la pensée de Lacan chemine par inversion dialectique. Il opère une première inversion de l'image spéculaire au sujet de l'expérience, puis une seconde inversion. Il renvoie le sujet à sa détermination symbolique. Ce chemin, qui remonte le sens phénoménologique du flux, a besoin du concept de négativité dont on trouve la première expression dans la logique de Hegel. Le stade du miroir est la réponse de Lacan à l'interrogation de Preyer et de Vallone sur la constitution des catégories. À la suite de Lacan, je vous présente les fonctions de l'image du corps de Gisela Pankov. Le choix épistémologique imposé par Lacan va oblitérer un accès direct aux vécus préverbaux, au corps, en tant que lieu des signifiants primordiaux. Or, cet accès au préverbal conditionne la clinique des psychoses. En effet, le monde du psychotique est clos. Freud en avait conclu à l'absence de transfert. Cependant, Gisela Pankov, une analyste allemande, auditrice du séminaire de Lacan et formée à la psychiatrie existentielle, va proposer un retour au vécu du stade du miroir afin de l'adapter à la clinique des psychoses. Ce retour ne remet pas en cause le principe d'une mise en mots, d'un accès à la symbolisation intersubjective, mais elle le fait précéder d'une modalité d'accès qu'elle nomme greffe de transfert, par laquelle elle développe une clinique des signifiants préverbaux basée sur la mobilisation des vécus corporels. Pour théoriser sa clinique, la méthode de structuration dynamique, elle oriente son épistémologie vers une ontologie existentielle, puis une ontologie de la chair, proche de Merleau-Ponty. Elle met en avant les troubles de la spatialité du schizophrène identifiés par Minkowski pour interpréter la psychose comme la destruction de la spatialité et plus explicitement les fonctions de l'image du corps. Elle distingue deux fonctions qui correspondent aux expériences de l'enfant au miroir. La fonction formelle de l'image du corps qui concerne sa structure spatiale en tant que forme et la fonction matérielle de l'image du corps qui concerne la capacité de renvoi de cette image à autre chose qu'elle-même, à ce qu'elle symbolise. Il faut comprendre cause formelle et cause matérielle comme deux modes de signification. Une opération de synthèse spatiale par proximité, dont Husserl déploie le fondement dans la troisième recherche logique de la théorie des tout et des parties, qui permet l'unification des vécus sous l'image spéculaire et qui correspond au temps du sevrage du petit enfant, et une opération de synthèse catégoriale par laquelle l'image est déchue au profit de ce qu'elle symbolise et qui correspond à l'entrée dans la phase oedipienne dans le temps des hommes. Cette approche phénoménologique du stade du miroir ouvre la voie à un courant de recherche psychanalytique sur les signifiants formels ou signifiants préverbaux très utilisés en pédiatrie. En guise de conclusion, donc, j'ai essayé de montrer que la science progressait en accumulant des observations et souvent en recourant à des concepts extraits de divers systèmes philosophiques. Les méthodes expérimentales permettent aujourd'hui d'aller plus loin en termes d'observables, de contenu. Mais l'essentiel de la recherche théorique est la mise en forme de ces contenus. La recherche des bonnes formes rattache sans nul doute la recherche scientifique aux traditions philosophiques. La thématique de l'enfant au miroir en est l'exemple évident. Une œuvre majeure d'Aristote de l'âme, Peripsouché en grec, est l'un des premiers traités de psychologie. Le Stagirite soutient qu'une âme est la forme d'un être vivant. L'âme n'est donc pas une substance distincte du corps vivant, elle en est le principe de vie. L'union de l'âme et du corps est un fait originaire, c'est le principe de l'hylémorphisme. Mais, précise Aristote, si l'âme est forme, cette forme doit être acte d'un corps qui a la vie en puissance. Autrement dit, l'âme est l'acte d'un corps. Aristote n'est donc pas très éloigné du fonctionnalisme de Darwin ou de Ribot. Si donc, nous reprenons l'idée générale que l'âme, le moi, est l'acte d'un sujet dont le corps a la vie en puissance, il ne peut y avoir de science des formes, d'éthique, sans contenu matériel qui l'instancie. Si la philosophie est la science des formes, des idées, comme le montre la progression du concept d'image du corps, cette science des formes doit s'appuyer sur l'observation des actes du corps, qui est le métier du psychologue. La philosophie et la psychologie entretiennent donc des rapports de dépendance, de réciprocité, d'opposition, dont l'enjeu est de donner sens aux observables. Ce pragmatisme est aujourd'hui la condition de vérité de toute philosophie, la garantie d'un corrélat entre les formes de la pensée et l'existence. Voilà, je vous remercie.
Merci à Philippe pour ta présentation qui nous propose tout un parcours à travers beaucoup d'auteurs et au fil conducteur, donc c'est cette notion d'image du corps. Je n'ai pas forcément beaucoup de questions par rapport à ce que tu nous as proposé, puisque tu nous as plutôt livré un matériau, disons, avec beaucoup d'informations. C'est vrai que c'est difficile de situer à travers toutes ces références la problématique, en fait, qui est la tienne, notamment chez Gisela Pankoff, même si tu l'as un petit peu évoqué. Peut-être que ce qui pourrait être utile, c'est peut-être de nous donner un petit peu plus d'éléments concernant cette problématique chez Gisela Pankoff, de façon à ce que finalement toutes les références que tu as ordonnées en amont, en aval, par rapport à cet auteur, cette autrice, puisse trouver un peu plus de... Voilà, qu'on voit un peu mieux la constellation dans laquelle tu souhaites les faire jouer. Je ne sais pas si tu vas les utiliser tous et toutes dans ta thèse, mais voilà, peut-être pour resserrer un peu ton propos autour de l'auteur et du corpus qui est le tien, est-ce qu'éventuellement tu pourrais ressaisir en quelques minutes, hein, tu as déjà pris la parole de manière assez abondante, donc pas forcément très longtemps, mais simplement pour donner un petit peu plus de grains problématiques, disons, à ton à ta proposition et à ton à l'enjeu de ta thèse.
L'image du corps est un concept valise qui contient beaucoup d'entendus pour les professionnels de cette question. Donc, l'objet de mon travail a été d'essayer de faire l'inventaire de ces contenus de façon à comprendre ensuite. Quel est l'intérêt pour Gisela Pankoff de reformuler tous ces contenus dans des formes qu'elle prend directement à la philosophie, plus précisément à la phénoménologie. Voilà, donc c'est en quelque sorte le préalable à une reformulation sur le plan phénoménologique. Il me semble que les. J'ai. Vrai, j'ai esquissé, je dirais, quelques références, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de phénoménologie. Mais elles sont tellement proches que il me semble que maintenant, la reformulation de cet ensemble d'expériences, de faits relatives à l'image du corps, va trouver sa place dans un déroulé phénoménologique qui est bien connu par ailleurs. L'idée, c'était d'articuler les deux aspects de la question de façon à ne pas avoir deux définitions de l'image du corps, c'est-à-dire une définition qui serait celle du clinicien et par ailleurs une autre définition qui serait celle du philosophe. Donc il s'agissait de bien repartir sur les vécus qui correspondent à l'image du corps. Donc, de redérouler tous les entendus qui sont contenus dans le concept d'image du corps. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déroulé en quelque sorte tous les faits d'observation qui correspondent à ce concept, d'où le concept d'image du corps a été tiré, aux réalités de terrain. Et c'est à partir de ces réalités de terrain qu'il est possible de réorganiser tous ces contenus selon une architectonique qui est celle qui est proposée par la phénoménologie et qui est par ailleurs une réflexion de la phénoménologie sur ces questions.
D'accord, merci. Donc, je pense qu'il sera très utile que tu crées cette articulation de manière précise dans ta thèse. Parce que, en fait, pour l'instant, là, ce qu'on a pu entendre ne permet pas de la comprendre, cette articulation de l'intérieur. Donc, ce sera vraiment nécessaire que les choses s'articulent de façon précise et interne dans la rédaction même de ta thèse qui est pratiquement achevée, enfin, en tout cas, qui est en voie d'achèvement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions venant de tes camarades, si je puis dire. Alex?
Je n'ose plus mettre mon micro en marche. Je ne sais pas si le son est correct, si vous avez de l'écho.
On t'entend bien, très bien.
Bon. Je suis très content d'avoir pu entendre Philippe Baquier sur cette thématique-là parce que j'ai suivi un chemin de parallèle en constituant la formation du concept de schéma corporel, mais à partir de données beaucoup moins psychologiques et qui n'allient pas à la symbolique lacanienne, mais à partir des données de la physiologie, de la neurologie, ça se recroise, ça s'éloigne, ça revient. Je suis assez avide hein, des données de confrontation et en particulier avec Gisela Pankoff, les données de confrontation avec la phénoménologie, avec le point de la psychiatrie existentielle, qu'on a fait effleurer.
On t'entend un petit peu, on t'entend pas très bien. Ah, excuse-moi, est-ce que tu peux parler plus dans le micro? On t'entend assez mal en fait.
C'est plus manifester un désir que d'avoir des questions plus précises à poser. Peut-être une. Henri Wallon, c'est Henri Wallon. c'était assez perturbant de l'entendre appeler Wallon pour moi. C'est l'auteur qui reprend la place de Jeannet au Collège de France, c'est bien ça?
Philippe, la question t'est adressée, je crois.
J'ai pas la garantie, donc je l'ai pas sous la main.
Je vais devoir vous laisser parce qu'il.
D'après ce que je sais, oui, c'est lui, c'est Henri. En fait, Henri Wallon, en fait, hein, ça se prononce Wallon, mais pas Wallon. Mais bon, c'était une belgicisation peut-être à ton attention, Alex.
Merci en tout cas, merci pour cette journée. J'espère pouvoir me reconnecter quand j'aurai rechargé mon téléphone pour la dernière conférence sur la liturgie. Je suis désolé de devoir vous quitter. Et merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Nathalie pour cette journée. À tout à l'heure peut-être.
À tout à l'heure, Alex.